Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
This is why I'm hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, tous les dimanches soirs en direct jusqu'à 19h30. L'influence de la France au sommaire ce soir de cette émission. L'influence de la France à travers l'éducation, l'apprentissage du français. Où en est-on de la puissance de notre langue? Comment l'apprend-on aussi à l'âge numérique? Mon invité ce soir est Pierre-François Mourier, le directeur général de l'Agence France Éducation Internationale, le nouveau nom du CIEP. Pour le dire en bon français, Pierre-François Mourier, c'est du rebranding.
Non, c'est beaucoup plus que du rebranding. Le CIEP était une vieille dame de 74 ans, extrêmement digne et efficace, mais plus personne ne comprenait réellement ce que voulaient dire les initiales CIEP, y compris d'ailleurs au sein de notre propre ministère, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. France Éducation Internationale, c'est par essence multilingue, ça n'a pas besoin de traduction dans le monde anglo-saxon, dans le monde hispanique. On voit immédiatement qu'il s'agit effectivement de l'agence française pour le développement de l'éducation à l'international.
Avec vous, nous évoquerons l'état du français dans le monde, mais aussi l'état de son apprentissage. Comment ça marche le FLE, par exemple, les certifications d'ELF ou d'ALF, à l'occasion notamment de la conférence des ministres de l'éducation des gouvernements francophones. Ça s'appelle la CONFEMEN, qui a lieu à Paris cette semaine. Du 13 au 15 novembre. De quoi s'agit-il d'ailleurs cette conférence?
C'est la plus ancienne, le plus ancien organe de la francophonie qui a préexisté même à l'OIF, l'Organisation Internationale de Francophonie. La CONFEMEN va fêter ses 60 ans l'an prochain et on est évidemment très honoré que le ministre ait choisi Sèvres pour proposer au président de la CONFEMEN, qui est le ministre de l'Éducation nationale du Nouveau-Brunswick en ce moment, de venir chez nous à Sèvres pour cette réunion.
Dans les anciennes manufactures de Sèvres.
Manufacture royale de Sèvres.
Non, ils faisaient de la vaisselle, c'est ça?
Un peu plus que de la vaisselle, quelques vases aussi.
Et des vases. Un peu plus tard dans cette émission, on reviendra notamment sur les EdTech, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'éducation, qui sont un sujet complémentaire avec vous, bien sûr. Pierre-François Mourier, on en parlera et on demandera un petit peu ce que vous faites dans ces secteurs. Et nous aurons également Nicolas Prinsen, le fondateur de la start-up Gloz, qui nous rejoindra, qui sera là d'ailleurs dès toute cette émission, pour évoquer ces EdTech, c'est-à-dire au fond les nouvelles technologies de l'éducation. Heureux de vous retrouver, Nicolas Prinsen. Gloz, c'est la start-up que vous avez créé depuis plusieurs années. Ça parle de quoi, justement, Gloz?
Gloz est une société de technologie dont la mission est d'inventer le futur de la lecture, c'est-à-dire la lecture à l'ère des écrans. Autant avoir une grande mission.
Et une grande ambition, voilà.
Il faut comprendre que les lecteurs aujourd'hui qui ont moins de 25 ans, grosso modo, passent 3 heures par jour sur leur smartphone et vont avoir tendance à avoir une expérience de lecture qui va être digitale, avant ou en parallèle d'être papier. Et plus d'ailleurs, disons, les catégories les plus populaires passent plus de temps sur les écrans que sur le livre papier, très largement. Et donc la mission de Gloz, c'est de créer l'expérience de lecture qui va mettre le meilleur du numérique au service d'une lecture améliorée et adaptée à cette nouvelle génération, la rendre collaborative, sociale, mettre aussi la big data au service de la lecture pour personnaliser une expérience de lecture qui aide à lire plus et à lire mieux.
Influence numérique, mais aussi médias ce soir en Soft Power avec à 19h30 Christophe Deloire, le directeur général de Reporters sans frontières, avec deux sujets, notamment plusieurs annonces cette semaine, Christophe.
Oui, la création mardi d'un forum sur l'information et la démocratie qui permettra de mettre en œuvre des principes démocratiques dans l'espace de la communication et de l'information. Ça fait suite à une initiative qui a été lancée il y a un an, qui entre-temps a été soutenue par le G7, qui a fait l'objet de la signature à l'Assemblée Générale de l'ONU d'un partenariat international, un texte intergouvernemental par 30 pays. On peut faire quelque chose sur les plateformes.
Et puis numérique dans Soft Power ce soir pour parler de l'ordinateur quantique et des machines qui apprennent, intelligence artificielle, apprentissage profond. L'ordinateur quantique, c'est pas pour demain, Emmanuel Paquette, vous êtes journaliste à l'Express.
Alors c'est pas pour demain, mais il y a déjà une course à la suprématie quantique à laquelle se livrent deux géants américains, d'un côté IBM, de l'autre Google. Et Google, qui a quelques semaines, a dit qu'ils avaient réussi à faire un premier calcul massif sur des données en 3 minutes 20 contre quasiment 10 000 ans. pour le plus grand supercalculateur au monde, qui s'appelle le Supremacy d'IBM. Alors, IBM s'en est plein quelques temps après, et on vous expliquera pourquoi un peu plus tard.
Comment ça marche? Quant à vous, Zoé Sfez, bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric.
Vous avez lu le livre de Yann Le Cain, Quand la machine apprend, justement.
Oui, alors je ne suis pas la seule, et j'espère que nous serons trois
à l'avoir lu,
parce que c'est un livre, bon, c'est un livre important. Yann Le Cain, prix Turing, qui est en charge de l'IA, tout simplement chez Facebook, et qui est l'un des pionniers, notamment de ce qu'on appelle l'apprentissage, le deep learning. En réalité, c'est un des livres, on parle souvent de livres sur l'intelligence artificielle dans cette émission. Voilà, c'est un livre qui rentre concrètement dans le propos, parfois peut-être trop. Il y a des moments
comment
où c'est
marche,
difficile de suivre. Des chapitres entièrement réservés aux matheux, mais c'est un livre important pour mettre enfin des mots et des processus précis sur ce dont on parle quand on parle d'IA.
Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. Émission réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Alexandre Dang. Émission préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Spotify qui s'appelle Soft Power justement, ainsi que sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. France Culture, 18h passé 18 minutes, l'actualité des industries culturelles et du numérique, première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquet de L'Express, Zoé Sfez de France Culture et en guest spécial Nicolas Prinsen. Son livre pénètre la vie secrète des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Yann Le Cain vient de publier « Quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond ». Il était d'ailleurs l'invité des matins de France Culture pour en parler. Le livre est profond, c'est le cas de le dire, bourré de mathématiques. Moi, j'ai rien compris. Et pourtant, j'ai un bac S. C'est pour dire. Mais nos chroniqueurs, eux, l'ont lu. Emmanuel Paquet, Nicolas Prinsen, vous êtes retourné en maths sup et en maths P, Emmanuel.
Bah, moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, si une prépa aura suffi, une prépa HEC économique. Donc, j'ai tenté effectivement de me plonger.
Oh, le frimeur. Mais une prépa, ça veut dire que vous n'y êtes pas allé.
Si je suis allé, mais je ne suis pas resté. Donc, effectivement, il y a beaucoup de. Alors, il y a une première partie biographique qui est assez intéressante sur d'où vient la plus accessible pour commencer, et puis nécessairement la plus intéressante puisqu'elle explique un petit peu la logique qui a amené ce petit Normand aujourd'hui à être à la tête d'un laboratoire à New York, d'être professeur à la New York University, d'être à la tête de FAIR, qui est aujourd'hui quasiment le plus grand labo d'intelligence artificielle au monde, au sein de Facebook, en concurrence directe avec Google et d'autres grands acteurs américains et chinois. Donc aujourd'hui, c'est un Français qui a un pouvoir extrêmement important, qui est en lien direct avec Mark Zuckerberg chez Facebook, même s'il ne le voit plus qu'aujourd'hui que 2 à 3 fois par an. Donc cette histoire-là, quand même, d'un petit Français qui part aux États-Unis et qui a un tel poids, qui reçoit le prix Turing de l'intelligence artificielle avec ses deux confrères, donc Yoshua Bengio, qui est aujourd'hui donc lui aussi d'origine marocaine, installé en France, puis parti s'installer à Montréal il y a déjà plusieurs années de cela, et qui travaille aujourd'hui à l'Université de Montréal, donc qui est resté vraiment dans le domaine universitaire, et Geoffrey Hinton, qui aujourd'hui travaille dans les labos de Google à Toronto sur l'intelligence artificielle, comme le disait tout à l'heure Zoé, sur un des domaines de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage profond. Et c'est vrai que Yann Le Cain dresse dans ce livre toutes les techniques existantes autour de l'intelligence artificielle pour démontrer que simplement, quand une machine apprend, ce n'est pas de la magie, mais des mathématiques, avec des mathématiques qui sont pensées en amont, avec des échantillons d'images, de sons qui peuvent être donnés à une machine pour lui apprendre justement à apprendre et lui apprendre à reconnaître ses sons, à reconnaître ses images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a beaucoup d'humains parce qu'on apprend que finalement, ces images, ces photos, ces sons qui peuvent être mis en place et entraîner la machine sont en fait.
Il y a des photographes qui les ont prises.
Ouais, et sont tagués humainement aussi. Ils sont tagués par des humains. Même nous aujourd'hui, on le fait.
Voilà.
Donc nous-mêmes, on le fait aujourd'hui en allant sur Internet quand on vous demande, vous savez, de rentrer un mot de passe et que dans ce mot de passe, après, on vous demande de regardez, vous voyez pas telle image, sur combien d'images vous voyez par exemple une voiture, vous cliquez dessus, en fait vous savez pas, vous êtes en train d'entraîner une intelligence artificielle à l'autre bout et gratuitement. Donc voilà, parce que ça a un coût. Ce qui est important aussi dans son livre, c'est le rapport entre coût efficacité qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui la plus belle machine reste quand même le cerveau humain, qui peut produire et reconnaître à peu près tout avec une consommation énergétique qui est relativement faible. Et ça aujourd'hui, la science n'arrive pas à le faire, enfin à répéter ce genre de choses. En revanche, on s'apprête on s'approche de certains éléments de reconnaissance. La reconnaissance faciale, dont on peut parler, hein, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. La reconnaissance vocale, qui permet aujourd'hui des systèmes de traduction automatique. Donc on a en fait des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans des domaines, mais aucune aujourd'hui qui ne soit généraliste et qui puisse faire tout correctement. Donc ce sont encore des programmes plutôt idiots, spécialisés, mmh, et extrêmement puissants lorsqu'ils sont spécialisés, mais jamais généralistes. Et c'est ce que dépeint aujourd'hui Yann Lequin, en essayant aussi de se projeter dans l'avenir, en essayant de voir est-ce qu'un jour on pourrait avoir une intelligence artificielle généraliste et qui apprend par elle-même, qui apprend seule à évoluer, sans avoir une technique d'apprentissage profond, ou une autre, qui est une autre technique, celle de l'apprentissage par renforcement, qui est aujourd'hui une des plus connues et des plus poussées par DeepMind, puisque vous savez, le joueur d'AlphaGo, AlphaGo a battu le joueur mondial à plusieurs reprises dans le jeu de Go, justement, et peut même jouer à tous les jeux Atari, bien mieux que tous les meilleurs joueurs au monde des jeux Atari. Donc on voit que cet apprentissage-là est un bon apprentissage aussi qui est important, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Ben oui, c'est un livre. Je conseille quand même d'essayer de le lire. Il est clairement assez rebutant à certains endroits de son passage, mais quand même, c'est un livre important parce que la personne qui nous parle, Yann Lequin, donc a tendance à rentrer dans des détails de mathématiques qui peuvent clairement vous effrayer, mais on met le doigt sur des questions très bêtes, c'est-à-dire les réseaux récurrents, les réseaux convolutifs qui sont convolutifs, c'est les réseaux sur lesquels lui a le plus travaillé. On voit effectivement à quel point l'intelligence artificielle, qui il explique très bien, Yann Lequin a été basé beaucoup sur la logique, a véritablement connu un vrai virage, et il fait partie des gens qui lui ont permis ce virage, en essayant effectivement de mimer le fonctionnement du cerveau humain, qui est probablement le fonctionnement le plus intéressant à suivre. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on rentre un peu dans le détail, on comprend qu'effectivement on est dans du mimétisme du cerveau humain, mais on n'est pas du tout sur du cerveau humain. L'intelligence artificielle, il le dit à plusieurs reprises, est plus spécialisée que jamais l'homme ne sera, c'est-à-dire qu'elle est plus spécialiste, mais pour le moment, elle n'a aucun moyen d'être généraliste. Et ça, c'est très important. Elle n'a pas de représentation intuitive du monde. Et ça, c'est une des données fondamentales. Et on ne pourra pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas, et c'est ça qui est incroyable, il dit, c'est pas les bons technologiques et les avancées technologiques qui vont nous permettre d'arriver à une IA généraliste, c'est des bons conceptuels. En gros, plus on comprendra le cerveau, plus on pourra l'imiter. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus pour arriver à ce qui est son rêve à lui. Il le dit, et c'est peut-être moi, une de mes principales critiques sur ce livre, lui rêve d'arriver à ce qu'il appelle un apprentissage auto-supervisé, puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage par l'IA, il est supervisé par des humains. À terme, il pourrait s'auto-superviser tout seul. Et là, on commencerait à toucher du doigt une intelligence artificielle qui pourrait avoir les mêmes capacités que nous. On n'a pas aujourd'hui les moyens d'égaler ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé. Voilà, il a la fascination pour le cerveau du bébé, qu'on ne comprend guère, et qui, si un jour les changements conceptuels, c'est-à-dire des bons conceptuels et non pas technologiques, advenaient, pourraient en tout cas donner le jour à des intelligences artificielles qui pourraient alors nous imiter ou pas, qui pourraient en tout cas avoir un sens moral, par exemple. Ça fait partie des inconnus. Ce qui est pratiquement peut-être la principale critique sur ce livre, il y a tout un dernier chapitre qui s'appelle Enjeu et une conclusion qui dure à peu près 2 lignes. Donc, c'est un très bon ouvrage de pédagogie qui nous permet aussi de lever certaines inquiétudes qu'on a sur cette idée d'intelligence artificielle. Yann Lequin fait partie des gens qui disent l'intelligence artificielle est quand même une intelligence. Certains vous disent c'est pas du tout l'intelligence. Si, c'en est une. Elle n'est pas du tout en rapport pour le moment avec une intelligence humaine. Je trouve que ce livre aurait mérité nettement plus d'investigation sur les enjeux, sur les limites, sur les biais. Disons que le fait d'expliquer qu'on n'y est pas tout de suite lui permet d'une certaine manière de balayer un petit peu les principales critiques ou les biais qu'aujourd'hui on peut attribuer à l'IA. Et ça, en l'occurrence, le fait qu'il soit toujours chez Facebook et qu'il soit effectivement un pionnier scientifique, il met la veste du scientifique. Et moi, j'ai un petit peu de mal et j'ai un petit peu de frustration sur ce livre quant au fait que c'est la personne qui probablement a la meilleure vision aujourd'hui pour penser ces questions-là et qui s'en décharge assez facilement.
Nicolas Prinsen, un autre petit Frenchie qui a réussi, lui, à Londres, fondateur de la start-up Gloz, qui a aussi lu ce livre.
Oui, alors très peu par rapport à Yann Lequin, je pense qu'il n'y a pas de comparaison, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est c'est que, bon, alors, pourquoi Yann Lequin est-il chez Facebook? C'est une question qu'on peut toujours se poser. D'une part, il y a une question de, des moyens extraordinaires que développe une entreprise comme Facebook et les GAFAM en général pour accueillir de la recherche et la valoriser, même avec toute l'incertitude que cela suppose. Mais inversement, parce que un endroit comme Facebook est absolument fantastique pour un chercheur dont les recherches viseraient à connaître et voire à prédire le comportement, en l'occurrence, du cerveau humain. Facebook met au contact la recherche avec ce genre de questions. Après, c'est un saut gigantesque qu'il décrit très bien entre connaître et prédire, et puis reproduire les mécaniques du cerveau humain et les comprendre. Les comprendre, c'est-à-dire en fait, quand on le lit, comprendre ce qui est spécifiquement humain et non reproductible par la machine. Et je crois que la grande question philosophique de notre temps qui s'avance devant nous, c'est vraiment celle-là. Qu'est-ce qui est spécifiquement humain? Et quelque part, des gens comme Yann Lequin, avec toute leur science et toute leur technique et toute leur mathématiques, nous aident en quelque sorte par défaut, par un jeu d'ombre, à nous dire, bah voilà le territoire que nous on va explorer, les limites de ce territoire sera peut-être la définition de l'humain.
Mais c'est même plus que l'humain, c'est qu'est-ce que le vivant, lui, il le dit, c'est les trois questions qui continuent à m'obséder. Qu'est-ce que le vivant? Parce que Elia ne reproduit pas encore ce que peut faire l'humain, mais elle ne reproduit même pas ce que peut faire un animal. Et ça fait partie des représentations de tout ce qui relève du vivant et non de la machine.
Oui, le bébé et la pieuvre sont toujours considérés comme les maîtres absolus de ces gens-là que l'IA est loin d'atteindre.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h28, seconde question, second sujet de l'actualité ce soir, l'ordinateur quantique. Alors on est toujours un peu technique, tout à l'heure on parlera d'éducation, c'est beaucoup plus simple comme sujet, mais on a suivi que l'annonce,
oh là là.
À voir, Google a fait la une des médias numériques fin octobre sur une annonce autour de l'ordinateur quantique, sans doute quelque peu prématuré, avec donc des ordinateurs du futur, à côté desquels les plus puissants Mac ou PC seraient peut-être des objets d'enfants justement. Emmanuel Paquette, de quoi parle-t-on lorsqu'on annonce l'arrivée potentielle un jour de l'ordinateur quantique?
Je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Il faut savoir qu'aujourd'hui les ordinateurs ou les smartphones qu'on utilise tous des transistors qui fonctionnent sur des réseaux binaires, c'est-à-dire des portes logiques qui sont ouvertes par des 0 et des 1. Donc voilà, c'est une séquence de 0 et de 1 qui permet aujourd'hui à vos machines de fonctionner. L'idée, c'est avec un ordinateur quantique, c'est de travailler non plus avec des bits d'information, donc des 1 et des 2, enfin des 0 et des 1, pardon, mais plutôt avec ce qu'on appelle des qubits, donc c'est les mêmes 0 et 1, mais qui peuvent avoir la même valeur au même moment, c'est-à-dire être simultanément 0 et 1. Je ne sais pas si vous connaissez l'état du chat de Schrödinger dont on parle en mécanique quantique, c'est-à-dire, vous savez, ce chat qu'on enferme dans une boîte, on ne sait pas si, et on lui met un brin d'uranium dedans radioactif, donc le chat peut mourir ou être mort, et on ne peut savoir l'état du chat que si on ouvre la boîte, et en mécanique quantique, on considère que le chat est vivant et mort, donc il a les deux états simultanément. Dans un ordinateur quantique, c'est la même chose, le qubit fait 0 et 1 en même temps, donc on est dans une autre logique, ce qui permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus rapidement en termes de calcul, et c'est là que Google a effectivement expliqué qu'ils ont réalisé un premier calcul qui leur a pris 3 minutes 20, alors que pour un super calculateur, en l'occurrence celui d'IBM, il aurait fallu 10 000 ans. Alors IBM s'est empressé de rectifier en disant mais notre supercalculateur Summit a été mis à jour, et en réalité avec cette mise à jour, il ne nous faudrait que 2,5 jours pour arriver au même résultat. Et ce que ne disait pas Google avec la NASA, puisque c'était une annonce concomitante entre les deux entreprises, c'était de dire que cette prouesse technique a été faite avec un type très particulier d'informatique quantique, et surtout avec un algorithme précis, quantique lui aussi, donc qui ne fonctionne avec ce type de machine, mais qui ne sert quasiment à rien. Donc c'est une démonstration un peu inutile et marketing, mais juste pour montrer qu'une prouesse technique a été faite par Google.
Mais qu'est-ce que ça va ou ça pourrait changer pour l'informatique et donc pour le fonctionnement de nos sociétés à l'avenir?
Alors pour l'instant, l'idée de ces ordinateurs quantiques, c'est plutôt qu'ils restent chez Google et IBM et les mettre à disposition du public en location, donc dans le cloud, comme on dit, pour utiliser cette puissance de calcul. Et c'est une puissance de calcul qui peut être utilisée, par exemple, en biologie, pour, vous savez, sur tout ce qui est travail sur les cellules ou les molécules, pour voir un petit peu les formats qu'ils peuvent avoir ou le déroulement, par exemple, de molécules de synthèse. On a besoin d'extrêmement de beaucoup de calculs, et là, l'informatique quantique peut aider et avoir des résultats beaucoup plus rapides que l'informatique traditionnelle, où là, il faudrait des capacités extrêmement importantes et beaucoup de temps pour arriver à un résultat.
Nicolas Prinsen, est-ce que c'est une mutation qui met en jeu, comment dire, les principes physiques fondamentaux d'une certaine manière?
En tout cas, c'est un
c'est un saut absolument incroyable. Alors, je ne suis pas sûr que Google ait voulu marketer l'information au sens où l'article a été publié par la NASA puis retiré aussitôt. Comme si, quelque part, on cherchait soit à cacher un résultat qui n'était pas encore validé scientifiquement, soit on cherchait à cacher un résultat qui était tellement énorme qu'il fallait peut-être préparer une vraie communication autour pour éviter les critiques sur la surpuissance existante ou à venir de Google. Mais en tout cas, si c'est avéré, c'est quand même un changement absolument extraordinaire qui va prendre forme et qui va se matérialiser peut-être dans les 5-10 années qui viennent dans notre quotidien. Mais c'est bon, avant tout une extraordinaire bonne nouvelle au sens où un saut technologique comme celui-là permettra en gros à l'informatique de traiter des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus incertains, biologie moléculaire ou phénomènes quantiques liés à la physique quantique elle-même, qu'aujourd'hui on ne peut pas traiter, même si on avait 10 000 ans devant nous. Donc c'est avant tout une bonne nouvelle. Reste à voir si ce genre de technologie va devoir devenir un service partagé, public, parce que c'est assez nouveau quand même qu'une telle technologie d'une telle magnitude soit en gros propriété potentielle d'un Google, même si en l'occurrence ça a fait l'objet d'un partenariat entre Google et la NASA, dont je ne connais pas le détail exact, mais qui laisse à penser qu'il y a l'objectif ou l'horizon de servir l'intérêt général, l'image américain, mais peut-être plus grand.
Mais justement, il y a une double information dans ce que vous venez de dire, effectivement, et sur la manière dont cette information a été donnée. Bon, la physique quantique et la mécanique quantique qui sont liées, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose, font partie des champs où on attend le plus de découvertes, game-changing, comme on dit, dans les 10 années à venir, où il y a encore un nombre d'inconnus absolument abyssal. Et là, ce qui était très intéressant, c'est ce que vous vous avez dit, c'est-à-dire la NASA qui publie une info, qui la retire, le tout avec Google, on est très très loin des systèmes de sanctions scientifiques tels qu'on les connaît, publication, republication, on avise ses pairs, on revient, on repart. Et là, donc, il y a une espèce de double changement. Si c'est une information réelle, effectivement, elle est très importante. Et si c'est une information réelle et qu'elle est juste, on est vers un changement total de paradigme dans la manière dont, déjà, on a des acteurs différents et dont ces informations circulent ou ne sont pas validées.
Un mot peut-être Pierre-François Mourier, je rappelle que vous êtes directeur général de France Éducation Internationale, vous ne sortez pas de l'X, mais de c'était quoi? C'était agrégé de lettres classiques.
Classique, ancien élève de l'école normale supérieure, AL, mon camarade Nicolas Princen étant BL, donc beaucoup plus compétent que moi sur ces sujets-là.
Donc vous comprenez quelque chose à l'ordinateur quantique?
Ce que je comprends, et je rebondis sur ce que disait très justement Nicolas Princen, c'est que même si on est au tout début, je rappelle que cette expérience, elle s'est faite à moins de 273 degrés, dans des conditions extraordinairement spécifiques, qu'elle n'a duré que quelques nanosecondes. Hein. C'est donc, on est encore très 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 loin d'avoir ça sur sa table de bureau. Il reste que la précipitation de la NASA, avant même Google, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, a publié l'information, montre qu'on est, comme tout à l'heure dans notre discussion sur l'IA, sur une question de souveraineté. C'est pas une question de technologie, c'est une question de souveraineté en gros des États, des nations. Et je pense qu'on aura abondamment l'occasion d'en reparler quand on parlera d'éducation et d'intelligence artificielle appliquée à l'éducation notamment.
Nicolas Princen, pour terminer.
Je suis 100% d'accord. Il faut bien comprendre qu'une déclaration comme celle-là, c'est l'équivalent aujourd'hui dans un monde numérique de planter un drapeau sur la surface de la Lune. On verra dans quelques années si ça se matérialise, mais il est possible qu'on se retourne dans quelques décennies sur l'histoire.
Ça a été la date.
Cet épisode commenté aujourd'hui sur France Culture, finalement, c'était l'amorce de quelque chose de gigantesque.
C'était
dans
la chute du mur de Berlin pour les.
Chute du mur de Berlin avec deux drapeaux en toile de fond qui sont quand même les États-Unis et la Chine. Il faut bien l'admettre.
Ou pas.
Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié, c'est sur le site de France Culture, page Soft Power. À suivre dans cette émission, Christophe Deloire, directeur de Reporters sans frontières, et juste après, Pierre-François Mourier pour parler de l'éducation du français. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le lancement par Amazon, depuis quelques semaines, d'un service de musique en streaming en haute qualité audio, baptisé Amazon Music HD. Ça rappelle un peu ce que fait la start-up française Qobuz pour la musique classique ou même Tidal aux États-Unis, à savoir du son compressé au format HD, en l'occurrence FLAC, hein, c'est le nom de la compression de fichiers, soit pour être encore un peu plus précis techniquement, un équivalent du son CD 16 bits à 44 kHz. Et parfois ça peut même aller beaucoup plus loin, on parle de 192 kHz. Alors sur France Culture par exemple, quand vous écoutez de la musique qu'on diffuse, c'est un son HD compressé à partir de notre DNC, hein, la discothèque numérique centrale de Radio France, en WAV à 48 kHz. Cette autre résolution n'existe pas chez Spotify ni sur Apple Music, et c'est sur ce créneau donc qu'Amazon cherche à exister. En gros, c'est Qobuz avec la puissance d'Amazon. L'industrie de la musique est à cran et sur ces sujets qualitatifs et très vigilante à cette évolution de fond qui pourrait marquer un tournant, elle aussi, déjà pris modestement par Deezer et en qualité dite master par Tidal. En se positionnant sur ce créneau de la haute qualité sonore, Amazon peut contraindre ou pourrait vouloir contraindre Spotify ou Apple Music à suivre et donc à changer les règles du jeu. À ce stade, Spotify a, selon les chiffres disponibles, 232 millions d'utilisateurs chaque mois. Apple Music, 56 millions et Amazon Music, seulement 32 millions. Le géant est donc un nain face à l'européen Spotify, d'où cette nouvelle stratégie. Alors la qualité de la musique audio, évidemment, c'est un débat que les musicologues et même tous ceux qui écoutent de la musique considèrent comme un problème majeur pour tout amoureux du son. Le format MP3 est mauvais, surtout si on l'écoute via un téléphone portable, et si les formats de compression du type Spotify ou surtout Deezer sont parfois un peu meilleurs que le MP3, ils ne sont pas convaincants pour les puristes. Le rocker Neil Young, par exemple, critiquait déjà le CD pour être d'une qualité sonore bien pauvre par rapport au vinyle. Beaucoup d'artistes continuent ce combat aujourd'hui et c'est aussi le nôtre à Radio France. Alors Steve Boom, le vice-président d'Amazon Music, vient d'affirmer que la haute qualité audio est le futur de la musique digitale. Et Neil Young, justement, salue cette initiative en expliquant que c'était la révolution, je cite, la plus importante pour la musique depuis l'arrivée du son digital il y a 40 ans. L'offre, précisons-le quand même, l'offre Amazon Music HD est différente de l'offre Amazon Prime qui est moins chère mais beaucoup plus bas de gamme. Alors en réalité, la qualité sonore de la musique compressée est un problème complexe. Le niveau de compression du fichier audio joue un rôle majeur, mais également les haut-parleurs des ordinateurs qui sont toujours désastreux et bien sûr les écouteurs ou les casques utilisés. D'où la bataille d'Apple par exemple avec des AirPods pour iPhone de meilleure qualité que les écouteurs Apple traditionnels branchés sur un iPod. Après, c'est aussi un débat parfois de puristes. Un bon ordinateur connecté à Spotify et à une chaîne hi-fi avec de bonnes enceintes offre un son que la plupart des amateurs de musique n'arrivent pas à distinguer d'un son CD, confirme plusieurs études. Zoé Sfez, sur ça, un mot sur
Mais alors, il y a deux choses. Alors, effectivement, vous l'avez dit, quand vous êtes sur des bonnes enceintes connectées de manière filaire, vous pouvez garder une très bonne qualité. Déjà, c'est très intéressant, mais c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de créneaux qui soient investis sur cette haute qualité. On sait que Tidal, ça marche pas très bien. On sait que Qobuz a beaucoup souffert. Mais de toute façon, si à un moment donné, comme moi, vous avez par exemple une enceinte Bluetooth, vous perdez quasiment le bénéfice d'avoir souscrit à une offre avec de la vraie compression. Et puis, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, il y a une volonté, bon, pour Amazon Music qui, comme vous l'avez dit, marche pas extrêmement bien de s'afficher sur ce créneau-là. Il y a une deuxième chose que j'aimerais dire quand même, qui est que l'une des technologies les plus inventives et les plus importantes qui pourrait changer le plus du point de vue de l'audio depuis la stéréo, c'est le son binaural. Et le son binaural, ça reste aujourd'hui des endroits où on fait le plus de recherche et de développement. Vous savez, c'est ce son spatialisé dans vos casques. Pour le moment, personne ne semble encore investir cette nouvelle technologie. Là, on va voir si un acteur comme Amazon, qui est, on peut le dire, largement plus gros que Qobuz ou que Tidal, peut changer les choses ou en tout cas remettre sur le tapis ce débat sur la qualité du son.
Emmanuel Paquette, pour terminer.
Oui, pour avoir discuté de ça avec des gens d'Amazon, en réalité, le premier usage, c'est l'assistant personnel, ouais. Alexa, puisque c'est aujourd'hui ce que demandent les gens en priorité, c'est d'exécuter une musique sur leur assistant vocaux. Et sur les assistants vocaux, ces demandes changent et fluctuent en fonction des périodes de l'année. Par exemple, ils ont remarqué quelque chose aussi d'assez simple, c'est que, alors ils le disent pas officiellement, mais c'est que quand des gens veulent faire un bébé, ils demandent une playlist jazz sur Amazon, et donc ils ont créé des playlists jazz dédiées justement à des gens qui, à un moment donné, bah, ont envie de se rapprocher. Donc, ils sont en train d'apprendre via ces enceintes connectées à la maison.
On n'écoute pas la même chose le matin en se réveillant, voilà. Quand on est en train de déjeuner.
Et du coup, la qualité
du son
est importante en fonction des activités qu'on peut faire. Donc, je vous laisse le soin de juger pour ça là.
Revenons pour conclure à la France où les vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, regrettaient tous et le répétaient sans cesse la disparition du vinyle. Ce vendredi soir, d'ailleurs, sur France 3, un documentaire inédit de Nicolas Perge a retracé les 60 ans de carrière et les amitiés des trois chanteurs français qui se sont embrassés sur la bouche, d'ailleurs on s'en souvient. L'album et le DVD live du concert des Vieilles Canailles viennent d'ailleurs de sortir en qualité son HD, voilà. Alors sans doute, l'âge du vinyle, du CD, du DVD, malgré un petit revival comme ça, étonnant actuel pour le bon vieux vinyle, est passé de mode. Mais la qualité sonore de la musique compressée a néanmoins un bel avenir devant elle. Et puisque je parlais à l'instant d'Edith Mitchell, écoutez la puissance de la trompette ici, dans ce célèbre Super 45 Tours de 1988. Le trompettiste n'est autre qu'Ibrahim Malouf, ici diffusé en son HD. 48 kHz sur France Culture.
Maman, je viens tout juste d'avoir mes 14 ans. Je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagnerai plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end. Sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Mais je me serais tué plutôt que de refuser. Oh. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter ce que ressentent les autres. Ta vie, la nôtre. J'en veux pas, mais maintenant j'ai choisi. Maman, les tours, c'est pas toujours des ghettos. J'ai pas de passion pour les oiseaux. Mais comme eux, j'aimerais voir ça d'en haut. Maman, je comprends mieux le regard des passants. Je vois pas comme eux, je pense tout en grand. En couleur et sur un écran blanc. Y a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Tu sais, j'ai pas grand chose sur les choses de l'amour. Mais je me doute toujours, c'est pas moi, c'est pas moi qui choisis.
France Culture, 18h44 sur le trompettiste Ibrahim Malouf. On avait oublié d'ailleurs qu'il était sur ce titre d'Eddie Mitchell. Rebonsoir Christophe Deloire, vous êtes directeur général de Reporters sans frontières. Et un de vos sujets, au fond, on pourrait lui donner un nom, le désordre informationnel. Comment vous voyez ce débat, information disorder en anglais?
Alors c'est beaucoup plus large que la question du journalisme et de l'avenir du journalisme. À cause du changement de paradigme technologique, nos sociétés sont confrontées à un écosystème de la communication et de l'information qui est radicalement différent. Au fil de l'histoire des démocraties, on s'était habitué à ce qu'il y ait des garanties qui soient apportées par des règles constitutionnelles, par des lois sur les médias qui sont invisibles pour le grand public mais qui ont des vertus, et puis par l'autorégulation des journalistes. Et là, avec l'explosion des moyens de communication, Internet, au fond, toutes ces garanties qui avaient été posées au cours de l'histoire des démocraties, elles ont sauté. Ce qu'on appelle le désordre informationnel, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une phase dans laquelle il y a une concurrence directe entre des contenus qui n'ont rien à voir. La propagande d'État, la publicité, le journalisme, ce qui était autrefois la conversation du dimanche.
Un tweet, un message sur
et
YouTube.
Jusqu'à présent, il y avait des distinctions. Et nos systèmes juridiques étaient fondés sur ces distinctions. Entre l'espace public et l'espace privé, entre des types de médias.
Puis il y avait des médiations,
entre les machines.
Des gens qui autorisaient ou pas, d'une certaine manière, cette information à sortir ou à rester confidentielle.
Ou même dans les journaux, il y avait une distinction entre ce qui relevait du journalisme et ce qui relevait de la publicité. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les plateformes, elles mettent en concurrence directe tous ces contenus. Et ça, c'est totalement nouveau.
Alors ça c'est le constat. Face à ça, comment on le résout? Il y a des lois, vous l'avez cité, la loi manipulation information, la loi Avia plus récemment. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est quand on donne des responsabilités ou qu'on entend donner des responsabilités aux plateformes, c'est lesquelles ? La stratégie des législateurs jusqu'à présent, devant l'urgence démocratique, c'est d'essayer de cibler des contenus qui, pour une raison ou une autre, échappent à la liberté d'expression, conformément aux standards internationaux du droit, ou qui sont considérés comme dangereux, manipulatoires. C'est de la régulation de contenu. Comment on évacue tel contenu ? Mais en réalité, c'est ne pas voir quelles sont les causes au-delà des symptômes. Et les causes, c'est que les plateformes, finalement, ont remplacé ce qu'étaient autrefois nos parlements. Nos parlements édictaient les règles de l'espace public, les règles du débat public, la mise en œuvre de la liberté d'opinion et d'expression garantie par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, on l'a délégué en tant que consommateur, on l'a délégué aux plateformes, mais sans la sortir d'aucune condition.
Et sans vraiment le vouloir.
Sans vraiment le vouloir, ça a été spontané.
Alors, vous êtes directeur général de Reporters sans frontières. Un mot, c'est quoi Reporters sans frontières ?
Reporters sans frontières, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale, dont le siège est en France, mais qui aujourd'hui est une organisation très internationale, qui a des bureaux dans 14 villes dans le monde.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire et quelles sont les propositions d'ailleurs que vous allez faire dès cette semaine ? Je pense en particulier à celle que vous ferez au Forum de la paix de Paris.
Il y a un an, on a réuni une commission de 25 personnalités de 18 nationalités. Il y avait là des prix Nobel, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Shirin Ebadi, des spécialistes des nouvelles technologies comme Yorai Benkler, des journalistes en proie des régimes autoritaires. Et cette commission s'est réunie pendant 2 mois et a édicté une déclaration sur l'information et la démocratie qui vise à dire quels sont les grands principes, quels doivent être les grands principes de l'espace global de la communication et de l'information. On a fait en sorte ensuite que cette déclaration, issue de la société civile, serve de base à un processus gouvernemental. Parce qu'il ne suffit pas d'édicter des beaux principes. La question, c'est de mettre en œuvre des obligations pour les plateformes. Et donc, de fil en aiguille, on a obtenu au Paris Peace Forum, au Forum de Paris
l'an dernier,
le soutien de 12 chefs d'État et de gouvernement, d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, la directrice générale de l'UNESCO, etc. Et s'est engagé un processus de négociation entre États qui a été soutenu par le sommet du G7 à Biarritz, par l'ensemble des pays réunis au G7, les grandes démocraties du monde, et qui a fait l'objet, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, fin septembre, de la signature d'un partenariat sur l'information et la démocratie, qui est un texte intergouvernemental, signé par 30 États, qui en fait reconnaissent comme leurs les principes qui ont été édictés par cette commission de la société civile, et appellent les plateformes à les respecter. Alors, on n'est pas encore à l'obligation de les respecter, pour l'instant, on les appelle. Mais ça, il faut procéder par étapes.
Zoé.
Non, mais c'est une déclaration très intéressante, j'invite tout le monde à la lire, parce qu'effectivement, elle revient sur, en fait, elle s'adresse à tous les acteurs et toutes les problématiques de cette Information Direct Order. Il y a clairement des articles, des propositions, des déclarations qui sont liées à l'ingérence des États, à l'ingérence des possibles propriétaires de médias qui seraient dans une situation monopolistique, mais effectivement, il y a des propositions très intéressantes, notamment largement lié aux plateformes, la question de la transparence des algorithmes, introduire un pluralisme dans l'indexation, donc ça c'est des propositions très fortes, très claires. Vous l'avez dit, tout ça fait l'objet d'une procédure entre États. Or, on sait qu'effectivement, l'État français, qui par exemple est signataire, vous êtes basé en France, ne respecte pas tout à fait à tout niveau toutes ces déclarations, même sur le niveau gouvernemental. On sait qu'il y a des lois très compliquées de ce point de vue-là. Comment est-ce que vous allez finalement entrer en contact avec le principal acteur de cette révolution à laquelle vous appelez, à savoir les plateformes ? Vous êtes en négociation avec eux ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux. Là, il y a une grand conflit entre les éditeurs de presse français et Google sur la question du droit d'auteur. On est très très loin de ce que vous préconisez.
De toute façon, pour imposer des obligations à des plateformes, évidemment que les États démocratiques auront une très grande utilité et un rôle fondamental à jouer. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui édictent les normes de l'espace public, c'est d'un côté Mark Zuckerberg, et qui, comme on le sait, flotte beaucoup, essaie de trouver un nouveau système à peu près chaque semaine pour éviter que ça plateformes ne servent des forces antidémocratiques. Et de l'autre côté du spectre, et il n'a rien à voir, c'est Xi Jinping, le président chinois. Donc comment les modèles démocratiques arrivent à réimposer leurs normes, c'est tout l'enjeu. Là, on va créer cette semaine un organe de mise en œuvre de ce partenariat international, qui sera un peu l'équivalent de ce qu'est le GIEC pour le climat, mais là, appliqué à l'information et à la démocratie, qui, au-delà du GIEC d'ailleurs, édictera et répondra à toutes les grandes nouvelles questions qui nous sont posées. J'en donne une par exemple. parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles aucun de nos parlements n'a une idée des réponses à apporter. La diffusion d'informations par messagerie privée. Aujourd'hui, on peut envoyer des millions de messages à des personnes dont le contenu des messages répond plus de celui qui reçoit que de celui qui émet. On est très loin de la correspondance privée quand on numectait l'enveloppe pour la fermer et envoyer. Et donc, aujourd'hui, c'est des procédés qui sont protégés par la correspondance privée, mais qui relèvent totalement de logique d'espace public. Donc, nos systèmes juridiques, ils sont totalement défait contre eux. Et donc, la question, c'est de trouver sur ces questions-là, ou la question des assistants personnels dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, les assistants personnels sont régis simplement par la liberté d'expression des patrons des boîtes et donc pourraient répondre, sont susceptibles de répondre à toutes les questions selon leur bon vouloir, sans aucune garantie.
Emmanuel Paquette.
Alors moi, je vous invite juste à lire le livre dont on parlait au début de l'émission, donc « Quand les machines apprennent ou apprennent », là, pour le coup. Et puisqu'en fait, Yann Lequin explique que le problème, on revient aux algorithmes, ils n'ont pas de bon sens, justement. Et que si on met un article de presse factuel et un article de presse ironique, qui se moque, par exemple, ou qui dit qu'un tel candidat ne se présentera pas, finalement, etc., l'algorithme ne peut pas faire la différence. Donc ce qu'il dit, concrètement, c'est que ces plateformes n'ont pas les outils, si ce n'est de faire une modération humaine, c'est-à-dire de mettre un humain derrière chaque poste.
Ce qui devient compliqué pour donc, millions de postes
chaque
minute. Je
crains qu'en fait, eux-mêmes, vous dites que les politiques n'ont pas la réponse encore. Personne n'a plus. J'ai l'impression que les plateformes elles-mêmes ne les ont pas.
Mais c'est très très intéressant. Parce
qu'on a inventé un Frankenstein, en fait, et il nous échappe.
Exactement.
Pendant longtemps, c'est le discours que nous, on a servi aux plateformes, qui disait, mais si la technologie parviendra à distinguer ce qui est fiable de ce qui n'est pas fiable. Mais en fait, la technologie, elle est évidemment impuissante, à savoir, au-delà de la question des algorithmes eux-mêmes. Si une vidéo est publiée sur Facebook, Facebook est incapable de savoir si cette vidéo a été sert simplement les intérêts de celui qui a payé, ou s'il y avait une prohibition des conflits d'intérêts, des règles d'honnêteté, de l'éthique, etc. Et donc il faut donner des outils aux plateformes. Et là-dessus, Reporters sans frontières a lancé une autre initiative qui est au niveau plus micro sur le comportement des acteurs.
C'était votre deuxième annonce.
Qui est la Journalism Trust Initiative et qui vise non pas à statuer sur chacun des contenus, mais à faire en sorte que dans l'indexation algorithmique, il y a un facteur intégrité. Et ce facteur intégrité, on est en train de le créer avec des entités partout dans le monde, de la Corée du Sud, Taïwan, aux États-Unis, à travers d'abord un processus de standardisation, c'est-à-dire on est en train de codifier l'éthique journalistique, la méthodologie, en considérant que les médias doivent présenter des garanties sur leur processus, et que ceux qui sont en mesure de prouver, à travers le marché de la certification, qu'ils respectent ces processus, doivent être favorisés par les algorithmes, par les annonceurs et le cas échéant aussi par les organes de régulation.
Pour terminer sur ces questions, peut-être on ouvre le débat. Pierre-François Mourier, directeur général de France Éducation Internationale, puis Nicolas Prinsen.
Je trouve la discussion géniale. Je rends hommage à la personne, en l'occurrence Frédéric Martel, qui a préparé et imaginé cette émission, parce qu'on voit bien qu'il y a un fil directeur double. D'un côté, la souveraineté. Comment est-ce qu'on fait respecter la souveraineté des États face à des très très grands acteurs multinationaux par essence? Et de l'autre côté, la question de l'autorité, au sens latin du terme, l'auctoritas. Qui est-ce qui garantit? C'est ça l'auctor. C'est celui qui garantit que telle chose est vraie ou pas vraie. On va y revenir très certainement à la suite de l'émission. Je me permets de faire un tout petit coup de pub pour une lettre qui est gratuite, donc qui ne rapporte rien à ses auteurs, qui s'appelle « La Monday Note » de Frédéric Filloux, qui est un ancien de Libération, de Jean-Louis Gasset, ancien patron d'Apple et créateur d'Apple France, qui travaille toutes les semaines sur ce type de questions et essaye de montrer comment est-ce qu'on peut garantir une information de qualité à l'âge digital.
Nicolas Prinsen.
Écoutez, moi déjà je trouve que ce que vous faites est absolument extraordinaire, donc je suis ravi d'entendre.
On en a fini avec les compliments des uns des autres.
Excusez-moi pour les auditeurs, je parlais de mon voisin de Reporters sans frontières, mais vous savez tout le temps bien que je pense.
Mais non, mais je savais que c'était Reporters sans frontières, mais avançons.
Seulement je voulais quand même dire une chose qui me paraît pas assez dite, c'est pourquoi est-ce que ces problèmes de fake news enflent partout dans le monde, mais notamment aux États-Unis, et paradoxalement il me semble moins en France. Alors c'est juste une petite note d'optimisme. C'est aussi parce que on peut en débattre, bien sûr, c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, déléguer cette forme d'autorité aux plateformes est un grand risque. Un grand risque dans lequel on se glisse, en effet, progressivement. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont, les parlements et les États restent quand même souverains sur un certain nombre de normes. Si je pense, par exemple, pour l'avoir pratiqué aux campagnes politiques en France, il y a tout simplement une interdiction de la publicité en période électorale. Donc, il y a une autorité pour ça, il y a des contrôles pour ça qui peuvent être détournés. Ce sont des choses qu'il faut absolument observer.
On l'a vu sur l'élection en Brésil. La campagne totalement cachée justement sur WhatsApp, qui pourtant a eu des effets énormes, précisément parce qu'ils passaient par une messagerie privée, n'ont pas été constatés ou remarqués dans l'ampleur qu'ils avaient.
Absolument, mais c'est pour dire que face, disons, à la fatalité de ces tendances qu'on voit exploser partout dans le monde, il y a aussi quand même encore une place pour le législateur, mais en amont de la plateforme.
Soft Power, dans un instant, troisième partie de cette émission. Merci à vous, Christophe Deloire, d'avoir été dans cette émission ce soir. Directeur général, le reporter Sans Frontières, vous revenez quand vous voulez. On est sur vos sujets régulièrement. Pierre-François Mourier, directeur général de France Éducation Internationale et qui est rejoint par Nicolas Prinsen, fondateur de GLOSE. On va parler maintenant d'éducation à l'international, mais aussi des Z-Tech. Tout ça dans Soft Power à 18h57 précisément. Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, alors que certains de nos invités quittent le studio à grand bruit. France Éducation Internationale est le nouveau nom de l'agence de coopération éducative du ministère de l'Éducation nationale. En gros, c'est cette agence qui forme les professeurs de français un peu partout dans le monde, que ce soit dans les lycées français et les écoles françaises, mais aussi dans toutes les écoles, quelles qu'elles soient, locales ou des enseignants, quelle que soit leur nationalité et la nature de leur établissement, enseignent notre langue. C'est un outil de soft power, par définition, un outil d'influence de la France. Et c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, Pierre-François Mourier. Vous dirigez cette agence, vous êtes notre invité. On va parler avec vous de l'état du français, je l'ai dit, dans le monde, des certifications, du niveau de français, etc. Tout ça, on a le temps ce soir. Mais juste avant, j'aimerais revenir tout petit peu, très brièvement, sur votre parcours de normalien, membre du Conseil d'État, autour extérieur, ancien ambassadeur en Slovénie, je crois ancien consul aussi à San Francisco, c'est ça ?
Absolument.
Et vous êtes corse, hein, pour tout arranger.
À moitié.
Né à Ajaccio, voilà. Mais aussi, vous avez été l'ancienne plume, vous étiez la plume de Jacques Chirac, président de la République. Un mot peut-être sur cette expérience, de nègre, hein, c'est un mot qu'on n'emploie plus. On dit speech writer en anglais, ou donc plume en français.
Ghostwriter,
mais aussi speech writer. Comment on écrivait pour Chirac ?
Constamment, parce que c'était un président de la République, je ne sais pas ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui était un président de la République qui accordait une importance capitale à ce qu'il disait, à la façon dont il le disait. Cette expérience qui est évidemment tout à fait extraordinaire, fondatrice dans une vie, hein, parce que ça n'était pas n'importe qui, c'était l'expérience des longs dimanches à l'Élysée, où avec le président de la République, en bras de chemise, lui, pas nous naturellement, nous révisions chaque discours, en particulier les plus importants, les discours mémoriels ou les discours sur l'environnement auxquels il accordait une importance toute particulière. Nous le révisions pendant des heures le dimanche après-midi devant la dent de narval du petit salon de l'Élysée, avec le président de la République, un feutre, je m'en souviens comme si c'était hier, un feutre rouge à la main, lisant le texte et corrigeant lui-même de sa jolie écriture. Pour ceux qui la connaissent, c'est une écriture extrêmement fine, là aussi il y accordait de l'importance, et relisant chaque mot de façon à le faire sien. C'était ça qui était important, c'est qu'à la fin du processus, le discours, c'était plus le discours de Mourier ou de Tartampion, c'était le discours de Jacques Chirac qu'il avait mis à sa patte.
Quelle était sa vision, vous voyez la transition, quelle était sa vision de la francophonie ?
Alors c'était un amoureux de la francophonie, du monde francophone, des mondes francophones, à vrai dire. Il était toujours beaucoup plus à l'aise dans le monde francophone et dans le monde asiatique aussi, mais ça on le sait, que dans le monde anglo-saxon, qui lui paraissait plus étrange, plus exotique en quelque sorte. Mmh. Il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il pouvait recevoir des hôtes libanais, du Moyen-Orient, des pays du Maghreb, et évidemment d'Afrique subsaharienne francophone, qui, comme vous le dites très justement, sont les pays avec lesquels mon agence travaille le plus. Juste, je ne veux pas me fâcher à mort avec mon collègue et ami Olivier Brochet, qui dirige l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est l'agence pour l'enseignement français à l'étranger qui, évidemment, organise l'ensemble des lycées et écoles françaises dans le monde, et notamment forme la plupart de ses professeurs.
On le recevra, c'est d'ailleurs prévu au printemps prochain. Alors l'éducation, ça s'appelait le CIEP auparavant, ça s'appelle désormais France Éducation Internationale. Depuis quand ? Depuis cet été, c'est ça ?
Depuis le 4 juillet
Ça a été annoncé à quelle occasion ?
À l'occasion du G7 de l'éducation, présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et en présence des autres ministres du G7 dans nos locaux à Sèvres.
Alors justement, vous le disiez, il y a d'autres agences. Une petite cartographie rapide, il y a Campus France, il y a l'AEFE, il y a d'autres agences éducation nationale et aussi ministère des Affaires étrangères, du français à travers le monde, sans parler de la francophonie qui est tout un autre territoire. Vous êtes où par rapport aux autres et vous faites quoi ?
Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il m'a sollicité pour que je prenne la direction de cet établissement public, m'a exposé son souhait. Son souhait est qu'il y ait un opérateur unique, ensemblier de l'offre en coopération éducative.
Ça, c'est
française.
Un des mots à la mode. Ensemblier.
Oui, on peut dire opérateur pilote, ensemblier. Moi, j'aime bien ensemblier. Je suis une des victimes de la théorie des ensembles à l'école primaire. Ça a dû me marquer, mais je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de caractère impérialiste de notre centre, évidemment, mais simplement cette idée que, contrairement à ce défaut bien français qui est de chacun de partir dans notre coin et au fond de ce... d'être en compétition les uns avec les autres, il faut porter, non pas porter une offre, j'y reviendrai, mais répondre à une demande ensemble. Ensemble, ça veut dire avec le CNED, l'enseignement à distance, avec le réseau Canopé, l'ancien CNDP, mais aussi avec l'Institut français du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Donc les alliances françaises, pour une part.
Bien sûr, avec l'ensemble du réseau, et puis avec toute cette expertise que moi je découvre, même si ce fut il y a longtemps mon ministère d'origine, du ministère de l'Éducation nationale, des inspections générales, des inspections d'académie, des GIP académiques, tout ça fourmille de compétences et d'expertise et demande à être organisé de façon à présenter au fond une équipe de France de l'éducation à l'international.
Alors tout ça fourmille, mais pour quel résultat ? On en est où du niveau, et ne parlons pas langue de bois, on en est où du niveau du français, notamment parlé par les enseignants eux-mêmes à travers le monde ?
Alors ça c'est bon, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, dans le réseau français, ce sont des enseignants qui sont des enseignants qui pourraient enseigner en France, ce sont des enseignants français dans les établissements de l'AEFE. Souvent d'ailleurs des détachés qui ont vocation ensuite à rentrer dans le système national. Et là, c'est le même niveau que celui que l'on peut attendre dans n'importe quel établissement français. Voire avec des méthodes pédagogiques parfois plus innovantes.
Innovantes, meilleures.
Meilleures, je ne sais pas, mais en tout cas plus innovantes et un engagement vis-à-vis des élèves qui est vraiment digne de tous les éloges. La situation des systèmes éducatifs dans les pays francophones, elle est extraordinairement contrastée. Et c'est pas de la langue de bois, elle est vraiment contrastée. Il y a le meilleur et il y a des vraies difficultés. Je le dis d'autant plus facilement que les ministres eux-mêmes, ceux de la Confémène dont on parlait tout à l'heure, le disent, les ministres de l'Éducation nationale des pays le disent, nous avons un problème de niveau de langue en français, des enseignants de français, bien entendu, mais aussi des enseignants de ce qu'on appelle dans notre jargon les DNL, les disciplines non linguistiques, l'enseignement des mathématiques en français, des sciences de la vie et de la terre en français. Et c'est là que nous devons intervenir pour aider à répondre à ce besoin de formation qui est extraordinaire. Il suffit d'aller notamment en Afrique subsaharienne francophone, dans le Maghreb, dans certains pays d'Asie, pour voir qu'il y a une demande de français.
Même en Chine, par exemple.
Beaucoup en Chine, pour des raisons d'ailleurs qui peuvent nous interroger. La nouvelle passion chinoise pour le français, qui est réelle, depuis quelques années, est aussi liée à des soucis profondément économiques, notamment les routes de la soie qui passent par des pays francophones.
Comment on évalue tout ça et quels sont les outils dont vous disposez pour ces tests d'évaluation, notamment du français, par rapport à, évidemment, à vos concurrents, d'une certaine manière, ceux qui font les tests alors du TOEFL. Type ETS, Cambridge University, TOEFL, etc., au niveau anglais, par exemple.
C'est en arrivant à ce qui s'appelait encore le CIEP, j'ai découvert un nouveau métier, figurez-vous. Je me suis d'ailleurs trompé. On m'a présenté la fine fleur de l'institution que je dirige, les psychométriciens. Et j'ai évidemment compris psychomotriciens, ne connaissant absolument
pas... C'est ceux qui mesurent la qualité, c'est ça, d'un test.
Exactement. Ce sont en fait des statisticiens, des gens extraordinairement calés, scientifiquement parlant, et qui savent très exactement calibrer un test de façon qu'il mesure dans le cadre européen de référence, vous savez, de A1 à C2, de façon à mesurer la qualité d'un test et sa capacité
scientifique à délivrer véritablement le niveau de maîtrise en langue du candidat. C'est donc eux, notre une de nos ressources les plus rares, en quelque sorte. Nous avons aujourd'hui 4 psychométriciens à France Éducation Internationale. Une entreprise comme Cambridge ou ETS en ont des centaines. C'est-à-dire que évidemment, il y a une bataille mondiale, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de souveraineté, pour les tests et les certifications. Une bataille mondiale qui, pour l'instant, est assez à fleur et mouchetée, puisque, en gros, le monde anglo-saxon, américain et britannique s'occupe des certifications en anglais, et nous, nous occupons des certifications en français. Mais il est évident que si nous ne nous préparons pas, notamment en numérisant...
Ils vont aussi proposer la certification en français. Mais pourquoi ils ne le feraient pas?
Mais ils le font d'ailleurs. Ils le font d'ailleurs. Mais il y a derrière nous l'État français. Les DELF et les DALF sont des diplômes nationaux.
Alors justement, vous avez quelque chose qui s'appelle EvaLang. Vous avez les DELF, les DALF en un mot.
Alors d'abord, le EvaLang, c'est un test d'autopositionnement qui est fait entièrement en ligne. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Nicolas Princen d'ailleurs. Et qui permet à tout un chacun de s'évaluer. Pas de se certifier, mais de s'évaluer. Il faut savoir que notre test EvaLang existe en français, mais que nous l'avons fait aussi en anglais. Nous avons de grandes ambitions pour le test en anglais, y compris dans notre système national, et en arabe. Et pourquoi pas dans beaucoup d'autres langues à terme.
Donc trois langues pour l'instant, anglais, français et arabe.
Absolument. Et on peut très bien imaginer à terme des déclinaisons. Le plan langue qui a été présenté, qui est issu du rapport Manes-Taylor, sans doute le meilleur rapport sur les langues qui a été fait depuis des années, offre de perspectives de ce point de vue-là. On voit très bien que nous pouvons aller beaucoup
plus
loin.
Et ça, on le proposera à tous les élèves de 3e, c'est ça, notamment ?
Alors, le ministre ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.
Mais vous pouvez le faire à sa place d'ores et déjà.
Certes pas. Je lui réserve évidemment la primeur de ces annonces. Ce qui est sûr, c'est que dans le PLF, le projet de loi de finances pour 2020, il est indiqué que France Éducation Internationale aura la charge de mettre en place un test d'autopositionnement pour tous les élèves de 3e en anglais. C'est tout à fait indispensable. Et si nous ne le faisons pas, nous serons certifiés par Cambridge, par ETS, peut-être à terme par la NEA, qui est l'agence des examens chinois, qui, je le précise ce soir, fait passer chaque année, bon an mal an, 80 millions d'examens et de concours. 80 millions.
Donc il faut qu'on soit présent, c'est ça que vous dites.
Ah, il faut absolument qu'on soit présent. Il faut, si on n'est pas présent dans ce domaine, un jour... l'autorité même de l'éducation nationale à laquelle nous sommes si attachés, qui est unique, laïque, obligatoire, pourrait être vraiment battue en brèche, et les certifications pourraient être faites par LinkedIn, par Salesforce, par Amazon, pourquoi pas, ou Facebook.
Alors je rappelle Pierre-François Mourier que vous êtes directeur général de France Éducation Internationale, c'est le nom de cette agence. Au fond, on pourrait dire votre métier c'est le FLE, pour prendre un autre terme, parce qu'il y a beaucoup de codes ce soir, c'est-à-dire le français et langue étrangère.
Le français, France Éducation Internationale, c'est un peu là que c'est inventé, ce qu'on appelle effectivement le FLE et toutes ces déclinaisons. J'aime particulièrement le FOU, qui est le français sur objectif universitaire, mais pas mal le FOS n'est pas mal.
Il y a beaucoup de FOU justement dans ce secteur.
Le français sur objectif spécifique, ça je vous laisse la responsabilité.
Non, c'était vous qui le disiez, non ? Non,
du français sur objectif universitaire, oui, il y en a beaucoup et c'est un domaine extrêmement intéressant, notamment dans les systèmes de certains pays du Maghreb, par exemple, où le système secondaire est arabisé et le système d'enseignement supérieur francisé, ce qui pose des tas de questions. Alors, c'est là que s'est inventée cette matière, qui est devenue maintenant tellement importante et tellement développée qu'en vérité, les acquis du français langue étrangère se retrouvent dans les classes, dans toutes les classes, y compris dans les classes en France, où on fait du français langue étrangère sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. On peut bien sûr penser à ces casenaves, vous savez, qui accueillent les étudiants allophones, dont Lise Touré parlait tout à l'heure sur votre antenne. Quand on a des gamins issus et des gamines issus de 30 nationalités différentes qu'on accueille dans une classe en France, eh bien, on fait du français langue étrangère, par définition. Et on fait même, ce qui est une de nos spécialités, de la transition entre les langues
maternelle. Les classes mines, on les
appelait mines. Exactement. Entre les langues d'origine des enfants et puis la langue d'enseignement. On le fait au Niger, par exemple. C'est l'un de nos programmes phares où on aide le système nigérien, nos collègues nigériens, à assurer cette transition. Mais on peut le faire aussi sur le territoire national.
Zoé.
Oui, mais alors, on fait du flux aussi en France, hein, parce qu'il y a 100 000 arrivants. Alors, c'est délégué à différentes entités, justement. On ne sait jamais, il y a un label, je crois, qui existe depuis 2007.
Le label qualité flux.
Mais absolument. Y compris en France, c'est très peu centralisé, en fait.
Mais centralisé ne veut pas dire plus efficace ni plus souverain. On est très attaché, nous, au label qualité FLE. C'est d'ailleurs nous qui le délivrons. Parce que ça permet à la fois d'avoir une vraie diversité. Il faut savoir que la plupart de ces structures sont des structures associatives.
Les Greta, les
CASNAV, etc. Et qu'il faut leur laisser le plus de liberté possible. Il faut simplement un cahier des charges commun qui permet d'assurer la qualité. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Quand je, avec le recteur de Paris, je vais au CASNAV de Paris remettre des diplômes à des gamines et des gamins qui sont arrivés depuis un an en France et qui ont leur premier diplôme de la République, je sais pourquoi je me suis levé le matin, véritablement.
Et quel rôle il y a, par exemple, on parlait de Jacques Chirac, on parlait de la francophonie. Jacques Chirac fait partie des gens, c'est lui qui a demandé la création d'une chaîne comme France 24. Moi, j'ai travaillé longtemps sur RFI, où j'ai eu l'honneur de faire pendant longtemps le journal en français facile, qui est un outil très utilisé dans le monde. C'est assez sidérant. Personne, peu de gens le connaissent. Justement, tous ces fameux médias France 24, RFI et TV5 Monde donnent beaucoup d'outils qui sont beaucoup utilisés à l'étranger. Et on le sait parfois peu. Dans un cadre de réforme audiovisuelle, il a été dit que peut-être il faut pousser aussi encore plus, c'est ça ?
Vous prêchez un convaincu. À vrai dire, on a contractualisé avec RFI, TV5 Monde notamment, et on se sert des outils numériques absolument formidables développés par ces chaînes dans nos pratiques de français langue étrangère. Au point même que dans ce qu'on appelle, dans notre horrible jargon, la FOAD, la formation ouverte et à distance, qui sont des modes de formation hybrides entre le distanciel numérique et un présentiel tutoré, au point que on a consacré certains de ces modules à l'utilisation des ressources de TV5 Monde, par exemple, dans le cadre de la classe. Ce sont des outils capitaux.
Alors, on a évoqué tous ces tests, le FLE, hein, le français langue étrangère, les certifications, les outils dont on dispose. Comment l'ensemble de ce dispositif, et c'est au fond la deuxième partie de notre discussion ce soir, comment l'ensemble de ces questions, de ces outils se modernise? Et comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'apprentissage des langues, et notamment du français, à l'âge numérique? Et c'est là où Nicolas Princène va nous rejoindre. Mais peut-être vous, comment vous voyez ce débat à ce stade?
Alors, c'est à mon sens le débat capital. On a créé, à l'occasion du G7 l'éducation à Sèvres, le 4 juillet dernier, notre laboratoire numérique de l'éducation. Il se trouve que nous sommes, d'autres le sont aussi, mais nous sommes à la tête d'un trésor extraordinaire, qui sont les data des centaines de milliers de diplômes et d'examens que nous faisons passer chaque année. Compréhension écrite, bien entendu, mais aussi compréhension orale. Donc, littéralement des millions de fichiers accumulés où vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les accents de la et des francophonies. Nous sommes présents dans 171 pays. Alors, inutile de dire que ce type de données intéresse beaucoup des grandes entreprises. Si Alexa, de temps en temps, ne comprend pas ce que vous lui dites, c'est parce que vous avez un accent qu'elle ne comprend pas. Là, nous, on pourrait naturellement intervenir. Et je ne le souhaite pas. Évidemment. Et c'est là que des start-up françaises comme Glose, de Nicolas Princène, comme d'autres, comme toutes celles qui sont réunies dans les deux organisations que sont l'EdTech et l'AFINEF, c'est là qu'elles ont vocation à intervenir et que je souhaite travailler avec elles. Et nous le faisons déjà.
Vous avez prononcé le mot EdTech, mot un peu barbare à nouveau. Tout simplement, ce sont les nouvelles technologies de l'éducation, très précisément. Nicolas Princène, sur ce sujet, vous avez lancé Glose. On vous a déjà reçu d'ailleurs pour en parler dans cette émission régulièrement. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des EdTech et la place de Glose dans ce dispositif, si on peut dire?
Ce qu'on essaie de faire avec Glose, c'est en tout cas prendre la verticale lecture, c'est-à-dire d'utiliser la technologie pour améliorer la lecture de la jeune génération, à la fois la lecture scolaire, c'est-à-dire comment lire, apprendre, analyser, partager un texte pour en extraire le sens, donc de l'apprentissage jusqu'à l'analyse perfectionnée, jusqu'à la lecture plaisir, loisir finalement. Qu'est-ce qui encourage aujourd'hui un élève d'aujourd'hui à lire chez lui et pour le plaisir et donc à améliorer ses capacités de cognition mais aussi d'expression liées à la lecture qui, comme vous le savez, est un des fondamentaux absolus de l'apprentissage puisque la lecture à un jeune âge va jusqu'à même former le cerveau, pour revenir aux questions de neurosciences dont on parlait au début. Donc la lecture est un des piliers fondamentaux de l'apprentissage profond qui va développer la capacité critique notamment, mais aussi des formes d'empathie à travers la lecture des romans. Donc on a pensé qu'il fallait regarder comment la technologie pouvait améliorer cette activité pour cette nouvelle génération qui, comme je le disais au départ, passe sa vie dans les écrans et donc se détourne malheureusement de plus en plus, notamment dans les classes populaires, du livre papier, et où c'est par les écrans finalement qu'on peut réussir à en refaire ou en faire des lecteurs.
Est-ce qu'on peut dire au niveau des EdTech que la France allait en avance, en retard, et surtout par rapport aux deux géants dont on a parlé et dont on parle tout le temps, à savoir les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre?
Il faut être clair, on est clairement en retard. On est en retard pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la bonne raison, c'est que en France, l'éducation est depuis longtemps une affaire publique d'intérêt général et de ce point de vue-là, très largement commandée par une logique publique de l'État. C'est une très bonne chose, c'est la force de notre modèle qui date il y a plus d'un siècle de ce point de vue-là. Et donc, finalement, y a-t-il un besoin des entreprises fondamentalement dans l'acte d'enseignement lui-même ou dans la sphère éducative?
Pas forcément. Alors, la mauvaise raison.
La mauvaise raison, c'est que de ce fait, eh bien, l'innovation a été moins forte parce que l'intérêt économique, disons, d'entreprises de s'intéresser à ce secteur sont moindres. Mais surtout, je veux dire, il y a plusieurs éléments qui peuvent poser problème. Un des problèmes importants, me semble-t-il, c'est la culture de la donnée. C'est l'absence de culture de la donnée en France. C'est-à-dire l'idée que, mis à part le bac peut-être, nous avons une difficulté à vouloir mesurer de manière, disons, scientifique la performance ou le niveau d'un élève. D'autres pays sont beaucoup plus précis sur le sujet, beaucoup plus ouverts et transparents. Si je prends par exemple les États-Unis, qui sont naturellement les leaders mondiaux de l'EdTech, très largement, eh bien vous avez un certain nombre de services qui amènent de la donnée à des choses aussi difficilement mesurables, par exemple, qu'un niveau de lecture. Qu'est-ce qu'un niveau de lecture? Un professeur français vous donnera quelques éléments qualitatifs pour décrire le niveau de lecture d'un élève. Aux États-Unis, vous avez déjà des outils déployés qui mettent un score à la lecture d'un élève. Mais un score pas A, B ou C, un score sur 1000. Ce sont des choses importantes qui structurent ensuite la façon d'enseigner et la façon d'apprendre.
Pierre-François Maurier, comment vous voyez justement le niveau ou le retard français dans ce secteur des EdTech, à nouveau ce qu'on peut appeler tout simplement les nouvelles technologies de l'éducation?
Alors deux choses. La première, c'est que comme bien souvent, on a effectivement un retard réel, mais que les meilleurs d'entre nous, en quelque sorte, sont déjà en Silicon Valley ou à New York ou autour de la route 128 à Boston, à travailler sur ces sujets. Ils sont français. Donc, malgré tout, les EdTech sont plus françaises qu'on ne le pense. La seconde, c'est que on a une position extraordinairement forte grâce à une direction du ministère de l'Éducation nationale, qui est la direction de l'évaluation et de la prospective, dans tout ce qui est statistique de l'éducation. Ça, c'est une mine extraordinaire. Vous poussez sur un bouton à la DEP, puisque c'est le nom de cette direction, et on vous sort à peu près toutes les données que vous voulez. Elles ne sont pas exploitées précisément parce que, enfin, pas exploitées par les entreprises, précisément parce qu'il s'agit de données de souveraineté. Donc là, il y a sans doute une piste à creuser. Et puis par ailleurs, ce que je vois pour mon établissement, c'est qu'on peut être une espèce de poisson pilote parce qu'on est petit, 250 personnes, agiles, et que notre métier, par définition, nous met dans le numérique. Et donc, l'une des missions que m'a confié le ministre, Jean-Michel Blanquer, c'est d'être un peu le laboratoire, en quelque sorte, de l'évolution du système éducation nationale globale vers
les... Vous allez attirer des start-up, avoir un incubateur, etc.
Ça, c'est l'ancien consul général à San Francisco qui ne peut pas vous répondre non, évidemment. C'est clair, c'est notre intérêt, et je pense que c'est l'intérêt des entreprises aussi.
Emmanuel Paquette.
Alors, il y a un classement qui est sorti récemment sur les EdTech. Donc, en 2018, plus de 50% des fonds levés par des EdTech venaient aller directement en Chine. Donc, c'est la moitié des fonds qui sont arrivés directement sur le marché chinois. Et parmi les valorisations les plus importantes, on trouve des sociétés essentiellement chinoises, indiennes Et les États-Unis arrivent quasiment même en troisième position. Donc, quand on regarde VIP Kids, qui est en fait un grand site pour apprendre l'anglais à des jeunes Chinois, aujourd'hui, la société est valorisée à $1,5 milliard. C'est une des plus grosses EdTech aujourd'hui de la planète. Juste derrière, on retrouve un deuxième Chinois, donc, qui s'appelle 17 Huawei. Donc, j'ai du mal à le prononcer, mais j'espère de bien le prononcer. Et puis, juste derrière, Baijus, qui est une société indienne. Et on voit que ces sociétés-là qui se drivent par la première, hein, mais plutôt vers, du chiffre d'affaires, puisque c'est des sociétés qui cherchent du chiffre d'affaires, ont migré du MOOC, donc ce qui était les cours massivement mis en ligne par des grandes universités, à ce qu'on appelle maintenant le SPOC. Alors je suis désolé aussi, parce que moi aussi, je peux avoir quelques
je suis pas seul à jargonner.
Qui veut dire Small Private Online Courses. Donc en fait, c'est prendre des cours en petits groupes, où on paye cher, mais où on a un diplôme en face. Et donc c'est ce qui semble se développer, parce que là on paye, il y a un marché. Et ça, il y a peu encore d'acteurs en France. Donc, je voulais un peu vous poser la question. Est-ce que on passe d'un marché français du MOOC vers celui du SPOC? Donc, avec un modèle économique payant, avec des gens qui peuvent se payer des grands diplômes, comme l'INSEAD, HEC, avec des cours en ligne.
Très utilisé en Afrique, par exemple, les cours en ligne de l'HEC.
Pierre-François Mourier.
Moi, je dirais pas qu'on passe du MOOC au SPOC, non pas parce que je n'aime pas Star Trek, mais tout simplement parce que je crois plus dans la formation ouverte et à distance. C'est-à-dire un modèle encore un petit peu différent, qui est une partie qui ressemble à un logiciel et une autre partie qui est tutorée par un vrai humain.
C'est-à-dire que vous êtes contre le spectateur un peu passif, comme si on était devant une télé, quoi.
Je suis pas contre parce que Fun MOOC, par exemple, France Université Numérique sur les MOOC, est vraiment très bien.
Qui est leader aujourd'hui et qui est un acteur public.
Mais absolument. Ouais. Et ça fonctionne très bien. En revanche, ça n'est pas certifiant, par définition. Ouais, et c'est pas le but.
Alors pareil, certaines études disent que 95% des gens abandonnent. Ils vont pas jusqu'au bout.
Donc c'est le présentiel qui fait la différence.
C'est l'être humain à l'autre bout de la ligne qui fait la différence. Ça, je n'en ai
donc pas 100%
le
machine.
Tuteur. Non, ça ne peut pas. Ça peut pas.
Oui. Alors on parle quand même de l'apprentissage du français. On parle de machine. On parle de digitalisation. On ne peut pas oublier l'énorme éléphant dans la pièce qui sont les applications d'apprentissage des langues et notamment cette espèce de mastodonte qui est devenu Duolingo. Je rappelle en deux mots ce que c'est que Duolingo. Donc c'est cette application basée sur un fonctionnement associatif qui son modèle économique est que à la fin vous apprenez une langue et vous traduisez des textes, donc en fait le modèle économique c'est celui-là et c'est une méthode d'apprentissage des langues qui est tout à fait différente des méthodes traditionnelles, d'où aussi son énorme succès, c'est la fameuse test A-B, c'est-à-dire que en utilisant les données de la manière où les utilisateurs échouent ou réussissent, les cours sont sans cesse adaptés, c'est le principe de la récompense aléatoire donc, et de la répétition non voulue, vous apprenez absolument pas en apprenant des structures mais en tombant sur des images, sur des expériences, à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, etc. Succès énorme. Certaines études prouvent qu'on peut maîtriser les 2000 mots contenus dans chacun des logiciels de langue en 34 heures sur Duolingo versus 134 dans une salle de classe. Comment est-ce qu'on fait? Alors oui, c'est toujours dubitatif. C'était une étude pseudo-indépendante, mais évidemment Duolingo s'en est targué. Comment est-ce que vous regardez ou collaborez ou pas, ou vous inspirez d'ailleurs des méthodes de ces applications? Là, on est sur plusieurs millions d'utilisateurs.
Question pour Pierre-François Mourier, mais aussi pour Nicolas Prinsen. Comment est-ce qu'on peut développer ces outils et est-ce qu'il faut?
Bah écoute, je peux dire deux, trois choses là-dessus. Premièrement, en effet, la numérisation de l'éducation se fait par étapes. La première, en effet, ça a été celle des MOOC. Ça consistait tout simplement à rendre disponible, à distribuer, à diffuser très largement les contenus éducatifs tels qu'ils étaient quasiment en papier ou en classe et de les mettre en ligne. C'était une première phase suffisante à créer un appel et de la disponibilité des contenus, mais insuffisante à engager. Donc la deuxième phase, et pour moi les apps comme Duolingo sont là-dedans, c'est quelles sont les mécaniques numériques mais aussi humaines qui permettent, au-delà de rendre disponible le contenu, de le rendre engageant. Et puis une chose qu'il faut dire sur Duolingo, c'est que c'est une super belle app, très sympa, très intuitive, très facile à utiliser pour qu'il l'utilise. Et c'est plutôt là qu'on est en retard.
On est en drogue comme si on jouait.
Voilà.
En fait,
quand je dis que nous sommes en retard, il y a un élément culturel, mais c'est aussi aux startups et aux entreprises de créer des produits intéressants qui engagent.
Pierre-François Mourier.
On est en retard, c'est vrai, hein, Nicolas Prinsen a raison, mais il y a des choses formidables qui se font. J'invite tous les auditeurs, surtout ceux qui ont des enfants au collège, à se précipiter à la fin de cette émission, seulement à la fin, parce qu'il faut qu'ils nous écoutent jusque là, sur l'application du CNED qui s'appelle Jules. C'est une application pour les devoirs faits. C'est génial. C'est un agent conversationnel qui vous permet, en tapant des questions, de donner des réponses en langage courant et de réviser, en gros, tout le programme du collège. Ça, c'est non seulement c'est fait en France, mais c'est fait par le CNED à Poitiers. et c'était pas si évident que ça d'y réussir. Donc on met les bouchées doubles, je crois, véritablement.
L'intelligence artificielle, elle peut, je ne sais pas, corriger les copies un jour. Le métier de prof sera ubérisé.
Non, pas ubérisé, justement. D'abord, je crois plus à l'ubérisation.
Nicolas Prenzen fait non de la tête.
Et par ailleurs, le métier de professeur va changer. On a inventé, il y a 2500 ans sous les portiques d'Aristote, mais plus récemment, il y a 150 ans environ, en France, un système où on a un maître et des élèves, une relation de maître à disciple. Cette relation-là, elle va évoluer. Il y a la classe inversée, comme vous le savez, où au fond,
c'est
les élèves...
C'est quoi la classe inversée ?
C'est les élèves qui font eux-mêmes la classe. Ça ne veut pas dire que le professeur ne fait rien, je vous rassure là-dessus. Au contraire, ils travaillent même plutôt
plus. Ils regardent des vidéos chez eux et ils sont dans la classe pour débattre.
Exactement. Enfin, l'université de Vincennes avait un petit peu inventé ce principe
c'est
en
vrai,
68.
C'est vrai, en 68, je suis d'accord. Malgré votre jeune âge, je vous dis Vincennes et pas Saint-Denis.
C'est révélateur. Nicolas Prinsen, pour terminer.
Je pense que si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, la France est dans une position très particulière. On parlait de la langue, il n'y a pas beaucoup de langues qui peuvent être au même niveau de compétition que nous à l'échelle mondiale. On parle là de quelques langues dans lesquelles il y a le français, l'anglais, et puis les grandes langues démographiques,
l'espagnol,
comme on pourrait dire le chinois ou l'espagnol. Mais la compétition est rude entre quelques acteurs. Donc la question, c'est comment peut-on gagner ? La position de la France, c'est celle d'un acteur qui, honnêtement, je pense, d'un point de vue de l'État et de ce qu'elle a fait dans la sphère publique au cours de plus d'un siècle, a sans doute un des plus beaux trésors. Très honnêtement, et toutes les agences de l'État dont on parle ici sont chacune dans leur genre, le CIEP, donc France Éducation Internationale, ou le CNED, des trésors absolus dans leur domaine. Le tout, en effet, ça va être de réussir à les coordonner et de créer, dans le rapport à l'élève et à l'enseignant, dans l'acte d'enseignement comme dans l'acte d'apprentissage, les interfaces, les expériences qui vont permettre de convertir ces trésors en expériences engageantes à très grande échelle, à l'échelle de la planète.
Pour terminer, Pierre-François Mourier, question que lançait finalement Nicolas Prinsen, comment peut-on gagner ?
Qu'est-ce que define
cette bataille,
gagner
cette
définissez
bataille.
Gagner
cette
comme
bataille.
Dirait un ordinateur. Le plan du président de la République pour le français qui a été présenté il y a un an s'appelait plan pour le français et le plurilinguisme.
Vous voulez d'ailleurs doubler le nombre de.
Alors enfin, c'est pas le même plan. Il y a un plan pour le français et le plurilinguisme qui est vraiment pour la francophonie. Et puis il y a le plan du président de la République pour l'enseignement français à l'étranger avec le doublement d'ici à 2030. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas un modèle dominant et que nous participions pour faire une espèce de mise en abîme conclusive, que nous participions au soft power global des langues. De ce point de vue-là, la démographie africaine en particulier est un atout absolument considérable. Moi, ma mission, chaque jour, quand je me lève le matin, c'est de me dire comment est-ce que je fais en sorte que cette variété extraordinaire des langues africaines, avec en plus le français hors partage, devient un atout décisif pour le continent.
On a commencé cette émission en parlant d'influence, on termine en parlant de soft power. D'une certaine manière, c'était ce qu'il fallait pour une émission sur la langue française, notamment. Merci infiniment à Pierre-François Mourier, directeur général de France Éducation Internationale, Nicolas Prinsen, fondateur de GLOSE. Merci à Zoé Sfez et Emmanuel Paquette. Pour aller plus loin, les références, livres, articles dont on a parlé, ainsi que les musiques qu'on a diffusées, il n'y avait qu'une ce soir, sur notre site France Culture, émission Soft Power. La semaine prochaine, nous recevons dans cette émission un invité exceptionnel, Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Demain matin, dans les matins, Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien, sera l'invité exceptionnel des matins. Dans un instant, Carbone 14. Merci à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.